Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui dans Au fil des pages, je vous invite à ouvrir un genre de livre dont on parle généralement peu dans les émissions littéraires. Et c'est bien dommage car on y apprend toutes sortes de choses passionnantes. Je veux parler des guides touristiques. Un guide pour découvrir une région très méconnue, le Vexin français, le nouveau guide du Vexin français, dont l'un des auteurs, et non des moindres, puisqu'il a préparé cette édition et elle lui doit la vie, est mon invité Jacques Dupaquier, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Dupaquier, bonjour, on vous sait historien et démographe. Vous avez été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez fondé le laboratoire de démographie historique en 1960. Vous avez été président de la Société de démographie historique et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la population et l'histoire des populations. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'on vous doit l'édition d'un guide touristique, ce guide du Vexin français, dans lequel vous avez rédigé plusieurs chapitres essentiels. D'abord, brièvement, pouvez-vous nous situer le Vexin et pourquoi français ? Y a-t-il un autre Vexin ?
Le Vexin, c'est le pays qui s'étend au nord de la Seine et de l'Epte. Alors, à l'origine, c'est le lieu où vivait la tribu gauloise des Véliocas, d'où est venu le nom de pays vexinois. Les Véliocas qui ont tenu tête à César en 58 avant Jésus-Christ.
On est environ à 30 km de Paris.
Oui, c'est ça.
Mais c'est
Pontoise
assez peu
connu. Pontoise est à 30 km de Notre-Dame. On est tout près. Hein. Et pourquoi avec Saint-Français, avec Saint-Normand ? Parce que l'unité du pays a été rompue en 911. À ce moment-là, les Vikings s'étaient rendus maîtres de toute la basse Seine et désespérant de pouvoir les expulser, le roi Charles le Simple a traité avec leur chef Rollon à Saint-Clair-sur-Epte, et il leur a abandonné le pays au nord de l'Epte, à condition qu'ils se convertissent et qu'ils arrêtent les invasions par la Seine. Ainsi, la partie vexinoise au nord de l'Epte est devenue Vexin normand, et la partie au sud de l'Epte, étant restée dans la domination du roi de France, a pris dès lors le nom de Vexin français, ce qui étonne un peu tout le monde.
Y a-t-il donc des grandes villes pour nous repérer un peu mieux ?
Pas du tout. Toutes les villes sont périphériques. Cette tribu gauloise s'est installée très tardivement, au IIIe siècle seulement avant Jésus-Christ, et ils n'avaient pas de capitale. Donc le Vexin français n'a pas eu de capitale, alors que les Parisiens avaient la capitale de Lutèce, les Bellovaques avaient la capitale de Beauvais, non, pas dans le Vexin. Et la circulation étant périphérique, essentiellement le long de l'Oise et de la Seine, c'est là où se trouvent les principales villes.
Donc Mantes, Pontoise,
Melun, Pontoise, Beaumont-sur-Oise, Chaumont-en-Vexin, tout ça est à la périphérie. Une seule petite ville à l'intérieur du Vexin, qui se développait tardivement, c'est Magny-en-Vexin.
Et alors les impressionnistes, dont on a tous en image celui de Van Gogh, l'église d'Auvers-sur-Oise.
Je m'excuse d'en parler sous un aspect matériel, mais si les impressionnistes sont venus dans le Vexin, c'est à cause du chemin de fer. Mm-hmm. Les impressionnistes n'étaient pas riches, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des voitures, ils se déplaçaient donc essentiellement à pied avec leur matériel, et donc ils ont travaillé autour des gares de chemin de fer. Or, la première gare a été à Auvers-sur-Oise. Quand on a ouvert en 1846 la ligne de Paris à la Belgique, cette ligne ne passait pas par Pontoise, mais elle passait par Auvers et par Valmondois. C'est une des raisons pour lesquelles Auvers a été un foyer d'impressionnisme. Mais en gros, c'est très curieux, quand on regarde les tableaux des impressionnistes, ils ont peint fondamentalement sur l'Oise, à la périphérie, très peu se sont aventurés à l'intérieur.
Voilà, mais maintenant on peut marcher à pied dans le Vexin.
Absolument.
Beaucoup mieux. Et d'ailleurs, grâce à vos soins, Jacques Dupaquier, on va y revenir, puisque dans ce guide du Vexin français dont vous êtes en grande partie l'auteur, vous nous conseillez d'innombrables sentiers de randonnée pour aller s'y promener. Et je le conseille vivement. Autre grande richesse de cette région, son patrimoine de monuments, grands monuments et petits monuments.
Beaucoup de petits monuments superbes. En réalité, on a pratiquement dans le Vexin un monument classé ou inscrit par village. Et nos églises ont ceci de tout à fait spécial, c'est que ces églises ont été en grande partie reconstruites après la guerre de Cent Ans. Au moment où s'est développé l'art roman, on était français et normand étaient en guerre sur l'Epte, donc c'était pas favorable au développement. Donc l'art roman a eu à peine le temps de se développer dans le Vexin, 75 ans à peu près, puis remplacé par l'art gothique, si bien que beaucoup d'églises ont été commencées en roman, terminées en gothique. Toutes les églises autour de Pontoise ont été brûlées par les Anglais. Alors après, le pays a mis plus de 50 ans avant de se repeupler. On a retapé dans un premier temps seulement les églises en gothique flamboyant, bouchant les fenêtres avec du gothique flamboyant. Et puis après, à partir de 1525, des architectes de génie, les Lemercier, l'architecte du Louvre, les Grappin, les grands architectes de Gisors, introduisent pour la reconstruction des églises un style radicalement nouveau. C'est une révolution artistique, le style Renaissance. Nous avons donc les églises Renaissance les plus anciennes de toute l'île de France, quelques-unes reconstruites totalement, pour d'autres c'est un porche, c'est une tour. Les églises du Vexin, pour la plupart, c'est un livre ouvert sur l'histoire de l'architecture religieuse.
Voilà une bonne définition. Aussi beaucoup de châteaux, mais qui sont peut-être plus tardifs alors, 17e, 18e.
Il est resté très peu de châteaux féodaux. Les principaux châteaux qui restent, évidemment, c'est la Roche-Guyon, mais la Roche-Guyon a été aussi rebâtie au XVIe siècle. Gisors, où on a le plus beau château. Et puis, ben, c'est à peu près tout, hein.
Les autres châteaux, 17e, 18e, 19e même.
Voilà, au 16e siècle, on a fait des manoirs. Voilà. Mais l'enrichissement étant venu, beaucoup de ces manoirs ont été transformés au 17e siècle en style classique. Et puis beaucoup de châteaux aussi ont été complétés ou rebâtis au 19e siècle. Nous avons donc des châteaux surtout 17e, 18e et 19e siècle.
Alors, dans le guide du Vexin français, on apprend justement l'histoire de tous ces châteaux, mais il y a aussi des colombiers, des fontaines, des lavoirs, des tours, des donjons, enfin, beaucoup de monuments intéressants à voir.
Beaucoup de petits patrimoines ruraux. Voilà. Ce qui est toujours très intéressant dans le Vexin français, nous avons une architecture rurale aussi très spéciale. Mm-hmm. Dans notre Vexin, la société était formée fondamentalement de petites gens qui possédaient leur maison, leur jardin, pas grand-chose, et qui devaient se procurer des ressources complémentaires. Mais la majeure partie des terres appartenait à la noblesse et au clergé qui le louaient à des fermiers. On avait donc deux classes sous l'Ancien Régime, des fermiers laboureurs, et puis alors les petites gens qui avaient leur maison. Et alors ces maisons, ce qui est miraculeux, ces maisons étaient préservées. La moitié de nos maisons avait plus de 100 ans. Aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus à 50% de maisons traditionnelles. Mais enfin, nous avons la plus forte densité de maisons traditionnelles de toute l'Île-de-France. Et ces maisons sont très belles.
Alors Jacques Dupaquet, est-ce que vous avez cette sensation que vous êtes depuis longtemps investi dans un combat pour préserver justement ce patrimoine, cette beauté naturelle des paysages aussi? Est-ce que c'est votre combat?
Écoutez, moi j'ai commencé de la manière suivante. J'étais au CNRS de 1962 à 65. J'ai commencé une thèse sur les paysans du Vexin français du 16e au 19e siècle, avec les méthodes nouvelles de la démographie historique, c'est-à-dire une fiche par famille, où on reconstituait famille par famille les naissances, les mariages, les décès, de manière à mesurer les comportements des populations. Et puis voilà que mon ami Jean Bastier, qui est aujourd'hui président de la Société de Géographie, m'annonce que le Vexin va être entièrement urbanisé. Moi, ça m'a semblé abominable. Ces paysages, j'avais appris à les connaître, je les avais parcourus à pied aussi. Je les connaissais aussi bien par les archives que par un contact direct. Et ça m'avait paru aussi monstrueux que si on avait voulu raser Notre-Dame pour faire un supermarché.
Alors vous êtes parti en guerre.
Or j'ai eu la chance de tomber sur un homme absolument remarquable, Adolphe Chauvin, qui était président du Conseil général de Seine-et-Oise, avant de l'être du Val d'Oise, et en même temps président des Amis du Vexin. Alors le mot d'ordre, ça a été « La campagne reste la campagne, que la ville nouvelle ne déborde pas sur le Vexin et surtout ne le pourrisse pas ».
Alors Jacques Dupaquet, le Vexin français maintenant est sous un régime qu'on appelle parc naturel régional. Mais je crois qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Expliquez-nous.
La première mesure conservatoire, c'est en 1972, à la commission des sites, l'ensemble du Vexin français a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des sites. Le problème, c'est que c'était purement défensif. Il nous a semblé indispensable d'avoir un projet positif. Et le gros problème, c'était évidemment l'avenir de la ruralité, puisque dans tous les villages, les commerces avaient disparu les uns après les autres. Les maires n'avaient plus que deux idées en tête: urbaniser, amener de nouveaux habitants pour participer aux impôts, industrialiser, créer chacun leur petite zone industrielle. C'était une catastrophe. Donc, le parc naturel régional avait cet énorme avantage de les fédérer, de développer le sentiment d'identité vexinoise et de leur procurer, par la région et les départements en question, les ressources dont ils avaient besoin. Tous les problèmes d'aménagement ont pu être réglés sans saccager.
Donc il y a l'aménagement, mais il y a aussi la préservation de l'environnement. C'est deux choses un peu différentes.
Vous savez, la préservation de l'environnement, c'est difficile de la faire de force. Mm-hmm. Il faut convaincre les gens. Nous avons monté, nous, une association depuis 1967 et nous nous sommes battus depuis 1967 pour expliquer, discuter, mais surtout pas par la violence. Nous avons pris le parti dès le début. Aucune violence verbale, même envers nos adversaires. Mais chaque fois qu'il y a eu un problème, on est allé discuter. Nous avons aujourd'hui la moitié des villages vexinois sont adhérents à l'association des Amis du Vexin français. Nous avons empêché complètement le mitage du paysage, c'est-à-dire que dans le Vexin, même les grosses fermes se trouvaient dans les villages. Il n'y en a qu'une vingtaine seulement qui se trouvent en dehors des villages. Notre habitat est un habitat groupé de petits et de moyens villages. Alors on a pu maintenir ça.
Nous parlons donc du Vexin français avec Jacques Dupaquet, qui est en grande partie l'auteur, ou en tout cas celui qui a réussi à faire éditer ce nouveau guide du Vexin français, publié par les Amis du Vexin français aux éditions du Val-Hermeil. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur Dupaquet, de nous avoir invités à cette promenade que nous avons faite avec vous, un peu rapide, mais maintenant on n'a plus qu'à mettre nos chaussures et à y aller. Et puis, je voudrais préciser que tous les renseignements, justement, concernant la richesse du patrimoine, concernant les promenades possibles dans cette région, peuvent être obtenus auprès de la Maison du Parc Naturel Régional au château de Théméricourt dans le Val d'Oise. Monsieur Dupaquet, je vous remercie
Merci,
infiniment.
Merci, j'ai toujours plaisir, vous savez, à parler du Vexin.
On le voit. Merci infiniment. Thank you.